On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Une soirée autour des mystères de l'univers ce vendredi au théâtre de Bourg-en-Bresse. Frédéric Bordry, membre honoraire du CERN, présent à cette soirée, est notre invité.
Et une journée spéciale pour accompagner les personnes qui veulent entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. C'était au Lab 01 à Ambérieu avec l'incubateur Ron Alpia.
Et tout de suite, votre actualité en bref.
Bourg en bref.
Retour sur le rassemblement pour défendre le droit à l'avortement.
Une cinquantaine de personnes s'étaient réunies devant la préfecture de Bourg-en-Bresse mercredi dernier pour la journée mondiale du droit à l'avortement. Il n'est pas directement menacé en France pour l'instant, mais à l'étranger, on constate un recul de ces droits. Comme aux États-Unis en juin dernier, où plusieurs États ont interdit l'avortement. À Bourg, la manifestation a débuté avec un rappel des avancées en matière de droit en France.
En décembre 1979, la loi Veil sur la légalité de l'avortement, mais pas sa gratuité, sera publiée au journal officiel. Le remboursement par la Sécurité sociale de l'IVG réclamé ici en 1979 ne sera introduit qu'en 1982, c'était hier. Même si la situation en France est meilleure qu'ailleurs, les baisses de subventions budgétaires en matière de santé, les réductions des subventions du planning familial, des associations qui accueillent et accompagnent les femmes dans leur choix de donner ou pas naissance à un enfant, les fermetures des hôpitaux de proximité, des centres de contraception et d'IVG suscitent inquiétude. Dans le monde, c'est encore aujourd'hui 215 millions de femmes dans les pays en voie de développement qui n'ont toujours pas accès aux services de planification familiale.
Je suis venue parce que le droit à l'avortement est remis en cause dans beaucoup de pays ces derniers temps et que ça me paraît essentiel de rappeler avant qu'il soit trop tard quels sont nos droits.
Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ?
Pour défendre le droit à l'avortement, parce que en Pologne, il a déjà reculé, dans les pays d'Europe, voilà, et tout le monde se pose la question et il faut le défendre, quoi. C'est très important pour le droit des femmes.
Ouais. Ça vous a effrayé ce qui se passe ailleurs dans le monde ?
Oui, ça m'inquiète un petit peu et bon, c'est vrai que j'ai deux filles, donc voilà, je me dis, j'espère qu'elles auront les mêmes droits que moi plus tard, parce que moi j'en ai bénéficié et je suis très contente.
On observe depuis plusieurs années des velléités de revenir sur ce droit fondamental, à la faveur de la montée des extrêmes droites, à travers des manifestations anti-IVG ou des actions choc de courants extrémistes. Le Parti communiste français défend ainsi l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution afin de nous prémunir contre toute tentative d'entrave à ce droit fondamental.
Et une proposition de loi a été déposée par une sénatrice écologiste pour inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Le texte sera examiné le 19 octobre.
Agir pour l'environnement, pour sa santé mentale.
C'est le thème de l'édition 2022 des semaines d'information sur la santé mentale. Une trentaine de manifestations sont prévues dans tout le département et c'est du 10 au 23 octobre. Pour en savoir plus et découvrir le programme, rendez-vous à la soirée d'ouverture. C'est mardi 11 octobre de 16h à 21h à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg. L'artiste Rimé et deux sociologues échangeront autour de l'écologie et de la santé mentale. Découvrez dès maintenant tous les événements sur le site www.santé-mental-1.fr.
Les 50 ans de l'association France Nature Environnement.
FNE, ce sont des salariés, des bénévoles qui œuvrent pour la préservation de la nature. Pour ces 50 ans, l'association organise une journée spéciale à l'espace du lac de Bourg, le 15 octobre. Au programme, des conférences sur la biodiversité et un concert. C'est à partir de midi. Plus d'informations sur leur page Facebook FNE 1.
Ce week-end, c'est la fête de la science.
Et pour l'occasion, Radio B accueille des élèves ce vendredi pour comprendre comment fonctionne une radio. Et ce samedi, nous serons à la MCC de Bourg pour vous faire tester le micro. C'est ouvert à tous et en accès libre de 14h à 18h. Plein d'événements sont organisés par d'autres structures. Toutes les infos sur le site d'Altec et on en reparle dans quelques instants.
Le café de la Tannerie vous accueille entre midi et deux.
Dès la semaine prochaine, le café et la terrasse seront ouverts à tous et en particulier aux collégiens et lycéens des établissements voisins. L'espace accessible du lundi au vendredi de midi à 14h sera géré par 3 jeunes en service civique. Le café de la Tannerie est aussi ouvert en soirée et vous pourrez assister à des concerts gratuits. Retrouvez toute la programmation sur www.la-tannerie.com.
L'invité de Radio B.
La question des origines frappe beaucoup les gens et au point de vue scientifique, on peut répondre à un certain nombre de questions. Mais en science, tout rebondit toujours, c'est-à-dire que quand on répond à des questions, ça ouvre toujours d'autres questions. Donc on n'arrive jamais au bout, on n'arrive jamais à tout expliquer.
L'astronomie peut nous renseigner sur nos origines à différents niveaux. Ça peut être des origines, je vais dire, extrêmement locales sur comment la Terre est née, comment tout le système solaire, notre Soleil et ses planètes se sont formées, mais ça peut aller plus loin, comment l'ensemble de l'univers s'est formé.
Les astronomes sont des historiens, sauf que l'échelle de temps, c'est la centaine de millions, parfois le milliard d'années.
Ça, c'est une sorte de photographie instantanée de ce que fut l'univers dans sa première jeunesse. Donc on a en quelque sorte un accès au bébé univers grâce à ce rayonnement fossile.
D'une certaine façon, c'est ce premier 10 milliards de secondes qui pose le plus de questions intéressantes.
L'origine de l'univers, c'est pas une histoire dont l'univers est l'aboutissement, c'est une origine absolue.
La bande-annonce de Bing Bang, l'appel des origines de Dominique Régem. Il sera projeté vendredi au théâtre de Bourg-en-Bresse pour inaugurer la fête de la science et fêter les 20 ans d'Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain. La projection du documentaire sera suivie d'une table ronde avec deux scientifiques, l'astrophysicien Nicolas Laporte de l'Université de Cambridge et Frédéric Bordry. Ce spécialiste de l'énergie est l'ancien directeur des accélérateurs et de la technologie du CERN, dont il est aujourd'hui membre honoraire. Le CERN, c'est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire et c'est le plus grand centre de physique des particules du monde. Il est situé près de Genève, à la frontière franco-suisse. C'est là aussi qu'est enfoui à 100 mètres sous terre le LHC, le grand collisionneur de Hadron, un tunnel de 27 km de circonférence, le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. Avec l'astrophysique, cet accélérateur est l'autre moyen d'étudier l'histoire de l'univers, une histoire longue de près de 14 milliards d'années. Nous avons joint Frédéric Bordry par téléphone.
Les astrophysiciens peuvent regarder beaucoup de choses, ils ont une connaissance de plus en plus fine de l'univers, ils comprennent mieux comment se sont formées les galaxies, comment se formaient les étoiles. Donc ils connaissent bien, ils peuvent expliquer bien, et de mieux en mieux, grâce au satellite Hubble et maintenant James Webb, l'histoire de l'univers de 380 000 ans à maintenant. Alors 380 000 ans, ça paraît petit par rapport à 14 milliards d'années. Hein. C'est comme si vous aviez une vie de 100 ans et c'était les trois premiers jours. Mais c'est toujours intéressant comme être les trois premiers jours. Et bien nous, les accélérateurs de particules, on fait exactement ça. On recrée en laboratoire, dans nos grands détecteurs, dans notre accélérateur, on recrée les conditions qu'il y avait aux instants primordiaux de l'univers. C'était des conditions où il y avait des très énormes énergies. Donc pour cela, on donne de l'énergie à des particules qu'on fracasse les unes contre les autres et on regarde ce qui se passait, les premières picosecondes, vraiment millionième de milliardième de seconde, qu'est-ce qui se passait. Et on peut décrire ainsi le début du Big Bang jusqu'au 380 000 ans, où il s'est passé beaucoup de choses, puisque les particules élémentaires se sont associées, on fait des quarks, on fait des noyaux, on fait des électrons et tout ça. Donc voilà ce qu'on peut faire.
Le LHC du CERN a redémarré fin avril, après plus de 3 ans de travaux. Qu'est-ce qui a changé après ces travaux ?
Alors, le LHC, qu'on appelle Large Hadron Collider, donc large parce que c'est grand, c'est 27 km, hadron, parce que c'est toutes les particules qui sont fabriquées de quarks. Donc, en particulier, pour l'instant, on fait fracasser des protons qui sont faits de 3 quarks. Et collisionneur, parce qu'on fait des collisions de protons contre protons pour voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme particules élémentaires. Donc, le LHC a été mis en service en 2010. Et il peut tourner pendant 3, 4, 5 ans. Et après, il a besoin de longues maintenances pour revoir, pour consolider un certain nombre d'appareils. Donc, il y a eu un premier long arrêt technique qui a duré de 2013 à 2014. Et un deuxième arrêt technique qui vient d'avoir lieu. On a légèrement augmenté l'énergie de collision. Donc, on est passé de 13 téraélectronvolts, peu importe ce nombre abscons, mais on est passé de 13 à 13,6. Et plus on augmente l'énergie de collision des particules, plus on a des chances de pouvoir découvrir de nouvelles particules. Donc ça, on augmente cette condition et on va augmenter aussi le nombre de collisions. Je voudrais dire que le LHC, il est prévu de tourner au moins jusqu'en 2040-2042. Et pour l'instant, on a produit en gros 5 à 7% des collisions pour lesquelles il est fait. Donc on est au tout début de l'inventaire du LHC.
Et les grandes questions qui vous restent à élucider pour comprendre la création de l'univers?
Pourquoi au début de l'univers il y avait l'énergie et puis ça s'est transformé en matière, antimatière? Elle est où l'antimatière? Pourquoi on vit dans un monde de matière et pas dans un monde d'antimatière? On dit qu'on vit dans un espace-temps, trois dimensions de dimension, une dimension de temps. Est-ce qu'on vit dans plusieurs dimensions, 11 dimensions, une infinité de dimensions? Est-ce que les quarks sont des particules élémentaires? Il y a beaucoup, beaucoup de questions. À chaque fois que vous découvrez quelque chose, vous ouvrez une autre question. C'est un peu comme des poupées russes, vous en ouvrez, puis vous continuez à ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a au bout? Est-ce qu'il y a une fin ou il n'y a pas de fin? Je pense qu'il n'y a pas de fin. La science, c'est... On a découvert le moment perpétuel. On ouvre des questions, on ouvre encore de plus grandes questions.
On a vu aussi qu'il y avait un projet de construction d'un anneau de 100 km sous le lac Léman pour 2040. Est-ce que vous savez où en est ce projet?
Alors, le LHC, c'est un accélérateur qui va marcher jusqu'en 2040-2042. Donc, notre devoir, c'est de prévoir quel sera l'accélérateur suivant. Donc, si je veux avoir un accélérateur qui démarre dans les années prochaines, accélérateur en 2040-2045, moins 30 ans, ben on est là. On doit même, on a commencé en 2015, à prévoir le futur. Donc, c'est une étude, ce n'est pas un projet, ce n'est pas approuvé, mais on regarde effectivement quel serait le prochain type d'accélérateur. Donc, c'est des projets pour des accélérateurs linéaires, mais surtout le projet phare serait un projet circulaire qui permettrait de casser les protons avec une énergie encore plus grande pour aller plus loin dans le domaine d'énergie. Et à chaque fois qu'on a multiplié l'énergie par un facteur 10, on a trouvé des nouvelles particules. Donc, ce sera un accélérateur de 100 km qui, effectivement, passerait par le CERN pour pouvoir se servir des machines qui existent déjà pour injecter des particules qui passeraient sous le lac, d'ailleurs, ça lève. Donc, une machine de 100 km, 150 mètres sous terre, qui passerait sous le lac, qui n'est pas un problème du tout, parce que le lac, c'est 35 mètres de profondeur. Donc, à 150 mètres, il n'y a pas de problème. Les problèmes vont plus qu'on approche les Alpes pour les problèmes géologiques. Donc voilà, c'est une étude. Il faudra certainement que on nous a demandé au niveau européen de faire une étude de faisabilité, ce que fait le CERN, et dans les années 2027-2028, il faudra voir si cette étude de faisabilité se transforme en projet pour pouvoir le construire et le mettre en opération dans les années 2045.
Qu'est-ce que ces recherches qui ont déjà donc bien avancé apportent aussi aujourd'hui aux gens dans d'autres secteurs de recherche?
Alors, l'exemple typique qu'on cite au CERN, bien sûr, c'est le web. Qu'est-ce que serait un monde sans le web? Il y a un certain nombre aussi d'autres technologies qui sont dans le domaine médical, beaucoup de toutes les technologies actuelles, l'imagerie médicale, les scanners et aussi le traitement médical, les radioisotopes et aussi maintenant qu'on appelle la protonthérapie ou la carbonthérapie, envoyer des faisceaux de particules de protons de carbone pour tuer des tumeurs cancéreuses. Il y a aussi dans le domaine de l'énergie, on a développé des câbles supraconducteurs qui consomment très peu d'énergie, donc qui pourraient, dans le domaine urgent et important de l'énergie, un certain nombre de technologies qui peuvent servir. Et puis si je regarde dans le passé, ben, effectivement, si on n'avait jamais travaillé, découvert l'électron, l'électronique vient de là, si on regarde dans le passé, on parle dans un téléphone, là, toutes les technologies que nous avons développées par la recherche sont ensuite transférées vers la société. Donc c'est un rôle très important de développement d'outils et de transfert de technologies vis-à-vis des domaines larges dont la société a besoin.
Frédéric Bordry, spécialiste de l'énergie, l'ancien directeur des accélérateurs et de la technologie du CERN, dont il est aujourd'hui membre honoraire. Il sera au théâtre de Bourg-en-Bresse ce vendredi 7 octobre à 18h30 pour inaugurer l'édition 2022 de la Fête de la Science et fêter les 20 ans d'Altec, centre de culture scientifique dans l'Ain. Pour y participer, il faut s'inscrire gratuitement. Toutes les infos sur www.altec.fr dans la rubrique Agenda. Vous y trouverez aussi le programme complet des manifestations pour la Fête de la Science. Radio B y participe, on en reparle dans quelques minutes. Alors on vous propose déjà de découvrir ou de redécouvrir Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain. Il fête cette année ses 20 ans. Camille Roll, sa directrice.
Alors cette année, Altec fête ses 20 ans. Donc ça fait quoi d'avoir 20 ans?
C'est un cap important pour Altec qui montre déjà notre pérennité dans cette niche qui est la culture scientifique dans l'Ain. Et puis c'est l'occasion de rendre aussi hommage à tous ceux qui ont participé. La Fête de la Science est un événement phare et c'est pour ça qu'on fait nos 20 ans dans le cadre de l'inauguration de la Fête de la Science. Et puis on invite ou on fait participer des personnes à cet anniversaire, comme le Technopole Alimentech qui réaccueille la Fête de la Science cette année, puisque la Fête de la Science avec Altec est née sur le Technopole Alimentech. On fête au théâtre de Bourg-en-Bresse, puisqu'on a eu des inaugurations mémorables de la Fête de la Science au théâtre. Donc c'était l'occasion à la fois de parler du passé, mais aussi de parler de l'avenir, puisque Altec a évolué depuis 20 ans et continue d'évoluer. Donc c'est vraiment tout ce qu'on veut apporter à l'occasion de cet anniversaire.
Et donc Altec, les débuts, ça s'est fait comment? Comment est venue l'idée?
Alors l'idée, elle est venue principalement de trois catégories d'acteurs, la recherche scientifique, le monde industriel et le monde de l'enseignement. Voilà, c'est des acteurs de ces trois catégories-là qui se sont mis autour de la table et qui ont décidé d'ouvrir un centre de culture scientifique dans le département de l'Ain. Et donc c'était important dans l'Ain que la culture scientifique soit également portée par une structure et c'est de là qu'est née Altec.
Donc quelles sont les différentes missions d'Altec? J'imagine aussi qu'elles ont évolué pendant ces 20 ans.
Oui, tout à fait. Il y a 20 ans, on était beaucoup plus modeste. On a commencé avec des bénévoles, puis la première salariée. Au fil des temps, les gens nous connaissent pour différentes choses. Les expositions que nous avions accueillies à Alimentech. La Fête de la Science est dans les gènes d'Altec dès le départ. Les gens nous connaissent aussi beaucoup pour nos animations jeunesse. On fait énormément d'animations, soit directement dans nos locaux, soit dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les ITEP, etc., etc., donc dans différentes structures. Les expositions que nous continuons, les conférences pour le grand public, la Fête de la Science que nous coordonnons depuis 2003. Et puis tout un tas d'autres événements, certains se remémorent peut-être les cafés des sciences chez la Jeanne qui ont beaucoup marqué l'histoire d'Altec. Et puis maintenant, dans les nouveautés, dans les nouvelles missions, tout un volet autour de la médiation numérique avec l'ouverture du premier Fab Lab ouvert au grand public sur Bourg-en-Bresse.
Et donc cet anniversaire, vous allez le célébrer comment? Quels sont les différents rendez-vous?
Alors on a deux principaux rendez-vous, le 7 octobre à la scène nationale de Bourg-en-Bresse, vraiment un événement festif, ouvert à tous autour des origines de l'univers, donc une belle soirée d'astrophysique. Et puis le 20 octobre à la MCC de Bourg-en-Bresse avec une conférence pour un public plus averti autour de la place de l'innovation dans l'avenir de nos sociétés.
Donc 20 ans, et qu'est-ce qui attend Altec pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a des projets que vous voulez mettre en place?
Alors écoutez, on profite en fait de nos 20 ans pour aussi, à l'issue de ces événements-là, se remettre autour de la table et retravailler le projet associatif d'Altec. Donc des projets, on en a, mais cet anniversaire, c'est aussi l'occasion pour nous de se re-questionner sur quelles sont les missions d'Altec dans ce 21e siècle qui présente de nombreux enjeux. Notamment climatique, énergétique, etc. Donc je ne peux pas vous en dire plus puisque ça c'est vraiment un travail qu'on fera avec les bénévoles, savoir où est-ce qu'ils veulent emmener Altec.
Camille Roll, directrice d'Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain. Altec coordonne la fête de la science dans le département depuis 2003. L'édition 2022 commence dans quelques jours, c'est du 7 au 17 octobre partout dans l'Ain. Vous retrouverez un village des sciences, en Berrieux, en Bugey, à Oyonnax et à Bourg. Pour ce dernier, ça se passera le week-end des 8 et 9 octobre et à deux endroits différents, la Maison de la Culture et de la Citoyenneté et le Technopôle Alimentec. C'est le grand retour de la fête de la science dans ce lieu.
Alors bonjour, Alain Chapuis, je suis le maire de Saint-Étienne-du-Bois, conseiller départemental du canton de Saint-Étienne-du-Bois et aujourd'hui je suis représentant du département de l'Ain au sein du Technopôle puisque je suis le président du syndicat mixte du Technopôle Alimentec à Bourg-en-Bresse.
Il y a la fête de la science qui va se passer à Alimentec à nouveau après une pause. Donc qu'est-ce que ça vous fait que la fête de la science revienne ici ?
Alors moi je suis très heureux, alors surtout en tant qu'ancien scientifique, je pense qu'il est important au niveau de nos territoires, nous puissions valoriser toutes nos formations scientifiques et l'université étant présente sur le Technopôle Alimentec, c'est pour moi le meilleur endroit pour arriver à concilier la science et puis eh bien, nos concitoyens et faire découvrir tout ce qu'on est capable de faire en innovation.
Pour les concitoyens justement qui ne connaissent pas du tout Alimentec, qui connaissent que de nom, est-ce que vous pouvez résumer tout ce qui se passe ici ?
Il se passe tellement de choses. Alors, on fait beaucoup de recherches, beaucoup de formations, alors que ce soit en biologie, en informatique, en chimie. Nous avons des chercheurs qui développent eh bien, tout ce qui est processus entre l'emballage et puis tout ce qui est contenu. Surtout, on a des équipes qui essayent de trouver des nouveaux moyens de préserver notre environnement, nos futurs modes de consommation et puis eh bien, essayer de préserver notre planète. Et tout ça sur le Technopôle Alimentec.
Donc justement, le thème de cette fête de la science, c'est plutôt préserver la planète. Est-ce qu'il y a des activités qui vont être dans ce thème-là ? Enfin, j'imagine que oui. Est-ce que vous pouvez en choisir une ou deux ?
Alors, je vais rester purement sur ce qui va être proposé par les services de Novalim. Oui, donc c'est une ouverture au grand public, c'est apprendre, comprendre ce que veulent dire les labels que vous trouvez sur les emballages de nos distributeurs alimentaires. Donc, quand vous allez faire vos courses en grande surface, l'objectif, c'est de vous proposer de faire un petit marché au sein du Technopôle Alimentec, de sélectionner des produits, des emballages et essayer de comprendre ces différents labels. Donc, agriculture biologique, label rouge, tout ce que vous pouvez avoir dans vos produits de consommation quotidien, de manière à mieux appréhender ce qu'est un produit local, bien transformé, et puis eh bien, essayer de se tendre vers des produits entre guillemets qui préservent mieux la planète et en tout cas qui soient représentatifs de notre agriculture de proximité.
Radio B participe aussi à la fête de la science. Deux rendez-vous à noter. Le samedi 8 octobre, on vous ouvre les portes de notre studio. L'occasion de découvrir les coulisses d'une radio locale et de parler dans le micro. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Ça se passe à Radio B, 18 rue Lazare Carnot à Bourg, de 14h à 18h. Retrouvez-nous aussi au village des sciences à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté le samedi 8 octobre de 14h à 18h pour tester les micros de notre studio mobile.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
Impacte ton territoire, c'est une journée dédiée à l'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire.
Les participants veulent retrouver du sens dans leur métier et aider leur territoire en étant leur propre patron. C'est la troisième édition de cette rencontre organisée par l'incubateur Ronalpia et le Lab 01, un tiers-lieu situé à Amberieu en Bugey. Au programme des ateliers et des rencontres, les personnes présentes ont pu s'entraîner à présenter leur projet à une banque ou à d'autres financeurs, concrétiser leur idée et savoir quel statut adopter. Un atelier était aussi organisé pour ceux qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas encore d'idée précise. C'est Stéphanie Quentin, copilote du Lab 01, qui l'anime.
On a interrogé des personnes qui sont présentes sur le territoire, donc qui connaissent un peu le territoire, et qui avaient envie que certaines idées existent. Il n'y avait pas la possibilité ni la disponibilité pour créer une entreprise autour de cette idée. Donc l'idée, ça a été de se dire, on va trouver des entrepreneurs, des profils d'entrepreneurs qui, eux, n'ont pas d'idée, mais seraient prêts à s'approprier une idée qui est sortie des besoins du territoire. Donc parmi les idées qu'on a identifiées, la première est l'accès à la culture à domicile. Donc cette idée-là, elle vient d'une personne qui a remarqué que des personnes en perte de mobilité ou en situation de handicap, notamment handicap visuel, n'avaient plus accès à la culture. Elles étaient du coup éloignées de cette de cet accès. Et elle s'est dit qu'il pourrait y avoir un accès qui serait rendu à ces personnes-là via le web, par exemple pour pouvoir visiter des musées ou pour pouvoir bénéficier de séances de lecture participative. Le modèle économique, ce serait plutôt un modèle associatif parce que potentiellement ça veut dire aller chercher des fonds publics aussi.
Je suis Christophe Josserand. Et j'habite sur le secteur de La Boisse, Montluel. Et ben, aujourd'hui, je participe à la journée Lab 01 et Ronalpia avec le projet de trouver une idée de création d'entreprise. Voilà.
Donc vous n'avez pas d'idée encore?
Alors, comme tout le monde, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'idées. On arrive à du mal à se canaliser. Et puis, c'est toujours bien de pouvoir rediscuter, voir un peu aussi avec les autres. Et c'est peut-être ça où on fait émerger de nouvelles idées et de nouvelles pistes.
Et pourquoi vous avez envie de créer une entreprise?
Pour donner du sens à mes journées et apporter quelque chose à la communauté. Voilà, donc,
ce serait quoi les valeurs de votre entreprise?
Principalement valeurs miennes.
Bonjour, je suis Marion, je suis adhérente au Lab 01, j'ai été invitée par l'équipe pour venir à cette journée, donc je suis ravie et je suis en transition professionnelle depuis quelques mois déjà, je n'ai pas d'idée précise, sauf que j'en ai plein d'autres aussi à côté. Suite à un burn-out, j'ai eu besoin de reposer la question du sens au travail, donc de retrouver aussi l'énergie pour savoir où j'ai envie de m'impliquer. Donc je suis entre culture et travail social de mon côté, j'aimerais trouver quelque chose à la jonction des deux. Donc créer une entreprise toute seule, je ne le sens pas trop, donc je viens m'inspirer un peu des idées, des énergies de chacun, des expériences aussi, aujourd'hui. Voilà.
Je m'appelle Marion.
Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui?
Parce que, comme certains des personnes qui sont ici, je suis en reconversion professionnelle. Donc j'ai plein de projets aujourd'hui qui me font vibrer, qui fourmillent dans ma tête. Mais maintenant, il faut que je me décide vraiment sur ce que je veux faire.
Vous avez envie d'entreprendre. Pourquoi vous avez envie d'entreprendre?
Parce que du coup, je trouve ça toujours intéressant quand on est maître de son projet, maître de sa vie. Et du coup, je peux y mettre vraiment les valeurs qui me portent. Ça va être tout ce qui est relations humaines, dans le respect, dans la bienveillance. Voilà, et aller ensemble dans une même direction et de mettre un peu de sens dans tout ça.
Avec cette journée, les participantes et participants se sentent moins seuls dans leur parcours pour entreprendre. Ils ont pu échanger avec des personnes qui ont été ou sont encore dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et après avoir créé son entreprise, Éléonore Blondeau est devenue salariée à Eternity System, une structure qui gère le lavage des contenants réutilisables pour des entreprises ou des collectivités. Elle a co-créé le collectif Startup Industrielle France. Et si l'entreprise qu'elle a créée n'existe plus aujourd'hui, elle a tiré une belle expérience de celle-ci. Elle est venue en parler aux futurs entrepreneurs et entrepreneuses présents à cette journée.
Vous êtes tombée comment dans l'entrepreneuriat? Quelles ont été vos premières expériences?
Je suis tombée malgré moi, puisqu'en fait, jeune diplômée en 2015, je ne savais pas trop quel job faire. J'avais envie de travailler dans les innovations à impact positif pour l'environnement. Et en août 2015, c'était le mois où a été votée la loi de la transition énergétique qui interdisait au 1er janvier 2020 les gobelets à usage unique plastique. Et donc ça m'a rappelé un projet que j'avais eu pendant les études, mais comme on en a plein tous les jours. Et je me suis dit, vu que je ne trouve pas le job qui me plaît, j'ai qu'à lancer cette idée. Mais je ne m'en rendais pas du tout compte que j'étais en train de devenir chef d'entreprise et encore moins industrielle. Et l'objectif, c'était vraiment de supprimer l'usage unique dans les campus, entreprises et collectivités, donc de répondre à un besoin et à un enjeu environnemental, mais aussi une recherche d'améliorer la qualité de vie dans les entreprises et les campus et les collectivités. Et du coup, ça s'est fait un peu malgré moi, mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses en très peu de temps. Et donc, ça fait une vraie force aujourd'hui pour mes activités actuelles.
Quelle était l'idée concrètement?
Donc l'idée, c'était une machine où on met 1 € de consigne qui... Ça distribue un verre propre et vide. Si on boit de l'eau, on peut en boire directement depuis la machine ou utiliser le verre comme un mug dans n'importe quelle machine à café. Une fois qu'on a fini de boire, on remet son verre sale à la machine, ça rend sa consigne et la machine lave automatiquement sur place le verre. Donc c'est vraiment une innovation mondiale, il n'y a pas de machine qui est capable de le faire comme on le propose.
Et donc c'était quoi un peu le parcours?
Le parcours, ça a été un vrai apprentissage puisque au début je ne savais pas du tout comment développer un produit. Et dans tous les programmes entrepreneuriaux d'incubation, justement, on n'en parle jamais. En fait, on parle beaucoup de développer un site e-commerce, faire un business plan, mais on ne parle jamais de comment développer un produit, qui sont les acteurs, quelles sont les étapes, qu'est-ce que ça veut dire design to cost, moule, bande test. Donc moi, j'ai appris sur le tard en rencontrant d'autres industriels. Au début, j'ai été associée pendant une année avec un designer industriel qui a permis qu'on recrute des stagiaires en mécanique, en électronique, en design. Et donc, au fur et à mesure du développement du projet, on a préconçu un moule pour concevoir le verre en plastique. On a développé la machine dans laquelle il y avait plein de savoir-faire différents. Et ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, j'ai envie de dire, sur le tas. Donc, c'était une belle aventure qui s'est terminée donc fin 2019.
Et donc, qu'est-ce que ça vous a appris, toute cette aventure ?
Déjà, ça m'a appris sur moi. L'entrepreneuriat, c'est une psychothérapie en version accélérée. Donc, ça m'a permis de vraiment voir où étaient mes forces et mes faiblesses. Ça m'a aussi permis de voir ce qui me plaisait ou pas. Voir que, à partir du moment où on se rend compte de ses erreurs et qu'on sait les reconnaître et s'excuser et avancer pour faire différemment la fois d'après, c'est une vraie richesse.
Est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes les personnes qui sont là pour entreprendre ?
Que entreprendre et être chef d'entreprise, ce sont deux choses différentes. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Entrepreneur, ça peut être organiser un tour du monde, organiser toutes les fêtes de quartier de son village ou créer effectivement une entreprise. Être chef d'entreprise, ça veut dire manager, déléguer, assurer les responsabilités, représenter. Donc déjà, c'est important de différencier l'état d'esprit d'entrepreneur de celui du métier de chef d'entreprise. Un conseil, c'est de faire un projet à sa taille. On pousse beaucoup dans les programmes d'incubation de nos jours à devenir une licorne. Sauf qu'en fait, on n'a pas tous envie de devenir une licorne. Parfois, on a juste envie d'avoir sa petite boutique. On se lève le matin, on ouvre la porte. Le soir, on ferme la boutique et c'est bon. Et c'est très bien. Il ne faut pas se faire prendre dans le jeu en fait, qui nous amène plus loin que ce qu'on souhaitait nous au départ. Et vraiment développer des projets à sa taille de ce qu'on souhaite. Parfois, c'est vrai que selon l'idée qu'on a, on est parfois obligé de faire des choses à grande échelle parce que si on veut atteindre une certaine viabilité économique, on n'a pas le choix. Mais il faut vraiment se dire quel est le mode de vie que je veux, quelle est l'organisation vie pro, vie perso que je veux. Et c'est vraiment ça, faire quelque chose à son échelle.
Pascal Delpinolouche est responsable Rhône-Alpia dans le département de l'Ain. Sa structure aide les entrepreneurs à se lancer avec un programme sur 9 mois. Elle nous explique l'objectif de cette journée organisée par Rhône-Alpia.
Alors, il y a deux objectifs. D'un côté, toucher tous les porteurs de projets du coin qui veulent créer leur entreprise ou qui ont une idée pour entreprendre et les faire se rencontrer avec les acteurs du territoire, les parties prenantes du territoire, que ce soit collectivités, financement, et en même temps, les faire rencontrer avec l'économie sociale et solidaire, leur faire comprendre ce que c'est et leur donner l'idée d'entreprendre dans l'économie sociale et solidaire.
Si l'entrepreneuriat vous tente, vous avez jusqu'au 17 octobre pour présenter votre projet et faire partie de l'incubateur Rhône-Alpia. Vous pouvez retrouver les informations sur leur site www.rhonealpia.fr.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si... On faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.